Le révérend Espérance Makadi est le pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Conférencier et motivateur, cet enseignant de la parole de Dieu parcourt le monde et travaille d'arrache-pied à l'émergence d'une église glorieuse capable de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Toucher les cœurs, renouveler les intelligences, transformer des vies, façonner des vases d'honneur, des outres neuves, pour qu'ils deviennent des sources de bénédiction entre les mains de Dieu pour des multitudes, voilà son appel. Suivez attentivement ce message afin de recevoir votre bénédiction et faire partie d'un peuple qui soit une réponse, une solution et un bénéfice pour sa société. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.
Oui, Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Vous pouvez élever la parole au-dessus de votre tête pour que cette parole gouverne tous les aspects de votre vie. On y va à haute voix. Ça, c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter aujourd'hui encore. Mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une semence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai des fruits au centuple. Dans un rythme d'accélération divine. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus-Christ. De qui je reçois le plus grand amen, il reçoit la plus grande bénédiction.
Dans mon cœur, c'est qu'il faut.
Jean chapitre 13, verset 34, sont des textes que nous avons lus le dimanche passé. Jean 13, est-ce que j'ai un lecteur? Merci. Jean 13, verset 34. Et vous n'avez plus besoin d'écrire, si vous l'avez écrit le dimanche passé, sont exactement le même texte. Jean 13, verset 34. Le deuxième était Jean 15, verset 12. On y va, s'il vous plaît.
Jean chapitre 13, verset 34, nous lisons au nom de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
Jean chapitre 15 verset 12.
Jean chapitre 15 verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Voilà, le dimanche passé, j'ai commencé à parler de la loi de la nouvelle alliance. Le principe est simple, lorsque les sacerdotes changent, il y a nécessairement changement des lois. En ce qui concerne les lois des gentils ou des nations, c'est des fils d'Adam, mais qui ne sont pas la postérité d'Abraham. La Bible dit que Christ a condamné les ordonnances, il a annulé les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Cette loi a été abolie. Mais il ne pouvait pas abolir la loi que Dieu a donnée au fils d'Abraham. Il ne pouvait que l'accomplir. Il a accompli cette loi à la croix du calvaire. Il a accompli tous les rituels du sacerdoce, de la liturgie. Il a accompli le fait, le sacrifice, l'expiation et tout le reste. Et il s'était crié à la croix, tout est accompli. Après qu'il ait tout accompli, il a mis de côté ce qui est accompli et il a inauguré une nouvelle alliance. Avec un nouveau sacerdoce qui est royal, avec un nouvel ordre de Melchisedec et avec une nouvelle loi, la loi de l'amour. Je l'ai dit 100 fois aux yeux et je reviens encore en disant que la loi de l'ancienne alliance ne nous concerne ni de loin ni de près. Dans la mesure que cette loi a été donnée aux hommes naturels, aux hommes charnels, aux hommes qui n'étaient pas nés de nouveau. Mais la loi qui nous concerne, que le Seigneur nous a donnée, c'est la loi de l'amour. J'ai reçu beaucoup de textos là-dessus. Je n'ai pas répondu à quelques-unes de vos questions parce que nous allons continuer. C'est cela le message de l'ordre. Nous allons continuer au fur et à mesure. Si vous trouvez que votre question ne trouve pas de réponse, écrivez encore. Mais sinon, dans 3, 4, 5 séances, la plupart des questions trouveront les réponses. La plupart des gens m'ont écrit en disant: ce n'est pas une nouvelle loi, parce que toute la loi de l'ancienne alliance est résumée par ces deux lois. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus n'a rien apporté de nouveau, c'est une loi qui existait, il a résumé. J'ai dit faux et archi faux, parce que dans l'ancienne alliance, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Regardez ceci, frères et sœurs. Dans l'ancienne alliance, la loi de l'amour a comme standard vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première des questions que je pose est: qu'est-ce qu'il arriverait à ceux qui ne s'aiment pas eux-mêmes? Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas, qui s'haïssent. Et ceux-là ne pourront retourner à leur semblable que cette pauvre image qu'ils ont d'eux-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de soi, l'amour que tu as pour toi, devient le standard, devient l'unité de mesure. Et tous les efforts doivent consister à se développer jusqu'à atteindre cette dimension où tu donnes aux autres l'amour que tu as pour toi-même. Mais je voulais vous faire remarquer que cet amour a été vaincu par l'égoïsme de l'homme. L'amour que Dieu exige à Israël, c'est même le même amour que l'homme naturel en général a besoin. Il y a d'ailleurs un verset très populaire dans le monde. Ce verset dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que c'est différent de tu aimeras ton prochain comme toi-même? Non. Tu commences par t'aimer toi-même et tu prends cette mesure d'amour comme le standard pour l'appliquer à ton prochain. Mais cet amour est tombé en faillite. Le système du monde est en train de tomber en faillite à cause du fait que l'égoïsme de l'homme a vaincu. cet amour. Regardez dans le couple, observez le couple, observez les familles, observez la société et observez les nations, et même au niveau des relations entre nations, des relations internationales comme on dit, vous verrez que l'amour qui consiste à aimer son prochain comme soi-même a été vaincu par l'égoïsme de l'homme. Tous les débats qu'il y a dans des couples, toutes les discussions qu'il y a dans des couples, c'est simplement parce que l'égoïsme a vaincu l'amour. Les gens ne se marient pas. C'est vrai qu'il y a des contraintes. Mais généralement, des gens se marient parce qu'ils se sont aimés. Mais puisqu'ils vivent ensemble, l'égoïsme de l'un et de l'autre commence à étouffer et à vaincre, à dompter l'amour jusqu'à l'anéantir, et l'égoïsme prend le dessus jusqu'à détruire. Toutes les discussions dans le couple, c'est autour de cela. Il n'a pas fait ceci pour moi, il a dit ceci contre moi, il n'a pas fait ceci contre moi. Tout tourne autour de moi. Et c'est cela l'égoïsme. Allez dans les tribunaux, dans les cours, ou au parquet, ou encore là où on fait des réconciliations de couples, et vous vous rendrez compte que ce qui détruit le plus l'amour, c'est l'égoïsme. Chacun tire la couverture de son côté. Chacun se bat pour ses propres intérêts. Alors que l'amour véritable consisterait pas à recevoir mais à donner. Posez la question à la plupart des jeunes filles qui sont là et qui veulent se marier. Pourquoi ils veulent se marier? S'ils n'ont pas le courage de le dire ouvertement, mais dans leur cœur ils savent, la plupart parce qu'ils n'ont pas une bonne situation sociale, la plupart parce qu'ils ne sont pas aimés. Je ne parle pas seulement de biens matériels, d'autres sont à la quête d'amour, à la quête d'affection, d'attention, mais tout le monde est à la quête de quelque chose. Donc ils entrent dans le mariage pour obtenir. Cela n'est pas différent des jeunes gens qui veulent eux aussi se marier. On cherche quelqu'un pour l'aider, on cherche quelqu'un auprès de qui on trouvera ceci et cela, et tous ces systèmes, parce que l'égoïsme ne fait que grandir, finit par tomber en faillite. J'ai eu l'occasion d'assister dans des scènes de réconciliation ou de partage d'héritage entre les membres d'une même famille. Je ne parle pas des familles polygames ou trois, quatre mamans. Je parle de ces familles où tous sont sortis des mêmes seins. Ils ont une même mère. Ils ont allaité de même mamelle. Mais plus les gens grandissent et l'égoïsme de chacun grandit avec lui, vous voyez, autour d'un petit héritage, les gens se déchirent. Les gens saillissent. Les gens arrivent à un degré de méchanceté. Ils sont capables même de tuer s'ils en avaient le pouvoir. Juste pour s'accaparer de cet héritage. Que juste peut-être papa et maman ont travaillé juste à deux pour l'avoir. Vous trouvez 10 gaillards en train de se combattre, de se nuire juste pour cet héritage. Ils ont grandi dans un même foyer. Ils ont partagé les lits, les repas à table. Ils ont reçu les valeurs que leur ont inculqué leurs parents. Mais plus ils grandissent, chacun son égoïsme, son ego grandit avec lui. Et finalement, l'égoïsme arrive à prendre le dessus sur l'amour et à étouffer l'amour. Qu'est-ce que je veux dire? Des relations. Des relations se tissent de nos jours, inspirées par des calculs. Ce n'est plus un élan de cœur qui amène les uns vers les autres. Mais c'est la tête, c'est le cerveau qui travaille. Et les gens observent, qu'est-ce que je peux recevoir auprès de Florence? Si je n'ai rien à recevoir, je n'ai aucun intérêt à m'attacher à elle. Regardez attentivement dans votre propre famille, ou dans notre église, dans notre société. Et la Bible l'a dit bien avant que nous puissions le constater. La Bible dit que le riche a beaucoup d'amis, mais le pauvre supplie même le seul ami qui lui reste. Et celui-là n'est pas non plus prêt à rester. Et pourquoi le riche a beaucoup d'amis? Parce que les gens viennent pour prendre quelque chose de lui. Ils viennent pour tirer quelque chose. Regardez comment des gens sont importants dans la famille. Et ils s'abusent en croyant qu'ils sont aimés et estimés des membres de leur famille. Non, ce n'est pas vraiment de l'amour. Les gens s'approchent parce qu'il a quelque chose à donner. Et celui qui n'a rien à donner, personne ne s'occupe de lui. Ça, c'est l'égoïsme de l'homme qui nous a amenés dans cette dimension. Regardez à l'église. Chacun a une raison pour laquelle il aime. Il aime Daddy parce qu'il prêche bien. Il aime Daddy parce qu'il est attentionné. Il aime Daddy, il aime Daddy. Il aime cette soeur-là, ce frère. Et l'autre là qui est au coin, qui n'a rien à offrir apparemment, qui l'aime à l'église, qui s'occupe de lui, qui va le visiter, qui parle de lui, qui le protège. Parce qu'il y a des gens ici, lorsque vous osez parler juste du mal d'eux, La minute qui suit, ils seront au courant. Quelqu'un va rapporter ces choses. Parce que celui-là rapporte les choses, pas parce qu'il les défend, parce qu'il l'aime, parce qu'il veut juste flatter et tirer quelque chose. Mais il y a des personnes qui, tout ce que vous voulez dire, ils ne l'apprendront jamais parce qu'il n'y a personne qui va amener de nouvelles. Parce qu'au fait, ils n'ont rien à offrir. Et même l'église, c'est à ce point que nous sommes arrivés. Frères et sœurs, je peux aller plus loin. Regardez les rapports entre les nations. Dernièrement, l'ITRE a refusé. Il a renoncé au fait à l'aide internationale parce qu'il a refusé d'être classé parmi le pays pauvre. On dit quoi? Très endetté. Et pourquoi l'ITRE a refusé? Pour raison de dignité. Vous ne pouvez pas comprendre. Un pays qui fonctionne avec un budget de centaines de milliards, juste pour une camionnette, juste pour un tracteur qu'il a offert à un autre pays, à un organisme, il oblige qu'on puisse écrire le don du gouvernement. Écoutez ceci. La Bible dit, lorsque tu donnes, parce que je parle de l'amour, la Bible dit, lorsque tu donnes, la main droite donne, que la main gauche ne soit pas au courant. Nous avons prêché en disant, lorsque je donne à quelqu'un, que papa Morab ne soit pas au courant. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne parle pas de la main gauche de quelqu'un d'autre, ta propre main gauche. Cela veut dire, lorsque la main droite donne, lorsque je donne, que je me force à ne pas prendre conscience que j'ai donné, pour ne pas vouloir dominer sur celui que je donne, ou m'imposer sur celui que je donne. C'est ce que ça veut dire, que ma propre main gauche ne soit pas au courant. L'égoïsme veut dire quoi? Je donne l'impression d'aimer quelqu'un, mais lorsque j'ai donné, c'est pour tirer une suprématie sur lui. C'est pour le plonger dans une dette morale. C'est pour le minimiser. Et dans ce sens-là, la dignité et le sens de l'honneur est bafoué. C'est pourquoi en Israël, lorsque la main droite donne, que ta propre main gauche s'efforce, que tu te forces toi-même à oublier que tu as donné et que tu ne tires pas profit de cela. Et d'ailleurs, la communauté juive l'a bien organisée dans la suite des temps. Ils ont organisé ce qu'ils appelaient des assistances communautaires. C'est-à-dire, ils nous disent comme celle-ci, nous avons une caisse des aumônes où tout celui qui a quelque chose à donner aux pauvres vient mettre dans cette caisse-là. Et maintenant, l'église a la responsabilité de redistribuer aux pauvres de telle sorte, papa ma gloire, que personne ne soit, hein, maître Banza, personne ne soit redevable à l'autre. Moi j'ai mis 100 dollars, mon 100 dollars, on a payé le minéval à un jeune homme là-bas, mais moi je ne sais pas qu'est-ce que mon 100 dollars a fait, ça m'empêche de prendre le dessus sur lui, et lui aussi, parce qu'il ne sait pas le 100 dollars vient de qui, ça le permet de garder sa dignité, et de ne pas tomber dans une dette morale, de ne pas se sentir écrasé. L'égoïsme, c'est ce qui a vaincu l'amour, qui consistait à aimer son prochain comme soi-même. Vous voyez, des fois on se plaint, on dit, bon, des pays développés, ils nous malmènent, ils font ceci. Mais écoutez, le cœur de l'homme est le même. Prenez cet exemple. La Grèce n'est pas en Afrique, c'est un pays européen. Et il est entouré de ses frères. Ce n'est pas tout ce qui fait la crise en Grèce. Mais mes petites analyses m'ont permis de dénicher ces points-là, deux ou trois. Je vais partager un seul point de ce qui fait la crise de la Grèce. Il y en a d'autres, bien sûr. La Grèce fait partie d'un ensemble qu'on appelle l'Union Européenne. Ça c'est un pays, 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 et ça c'est la Grèce. Maintenant dans l'Union, le clause qui les unit dit, vous ne pouvez pas acheter quelque chose en dehors s'il y en a au-dedans. S'il y a l'un des pays qui fabrique ou qui fournit la chose, vous ne pouvez pas aller le chercher ailleurs. Ce qui fait que les Grecs sont pauvres, pour acheter un poste téléviseur comme celui-là, s'il achète en Turquie ou en Chine, il achèterait à 150 dollars ou à 200. Et ça suffit vis-à-vis de sa bourse. Mais le contraire de l'engagement de l'Union, l'interdit d'acheter en Chine à moins cher, il doit acheter chez, je cite le nom de personne, il doit acheter chez un frère dans l'Union. Et il achète à 700 dollars. Mais lorsqu'il explique à son frère que ma bourse ne me permet pas d'acheter un téléviseur à 700 dollars, son frère dit, il n'y a pas de problème, nous allons te prêter l'argent, tu vas juste acheter, tu restitueras avec les intérêts. Écoutez un deuxième élément. La Grèce est là, et en frontière avec la Turquie et tout le monde arabe qui s'ensuit. Je ne cite pas les noms des pays. Maintenant, le pays qui est là, lui n'a pas de frontière avec L'extérieur de l'union, il est dedans, il est dedans, il est dedans. Ils disent à la Grèce, faites attention, nous devons être sûrs que les frontières de l'union sont sécurisées. Et comme tu es en frontière avec ce monde-là, tu dois t'armer puissamment afin de sécuriser les frontières. La Grèce dit, je ne fabrique pas d'armes, je n'ai pas l'argent pour acheter d'armes. Il n'y a pas de problème. Nous, nous fabriquons et nous avons l'argent pour te prêter à acheter. Mais pour nous sécuriser tous la frontière. Et celui qui est plus fort, qui fabrique l'arme et qui a l'argent, lui prête des armes. C'est comme ça que sa dette ne fait que, il ne fait que s'enfoncer. Ça, ce n'est pas une question de noir et blanc. Ce n'est pas une question de nord et sud. C'est juste pour démontrer l'état du cœur de l'homme. Comment le système de l'homme fonctionne. Et comment ce système a failli. Parce que l'égoïsme a vaincu la loi que Dieu a donnée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, écoutez ceci. En hébreu, le mot charité n'a pas de correspondant. Le mot charité. Parce que lorsqu'on parle de l'amour qui consiste à aider, c'est alors qu'on parle de la charité. En hébreu, ce mot n'a pas de correspondant. On utilise ce mot ici, regardez. On utilise le mot ici en hébreu pour parler de charité. Lisons ensemble ici. Je n'entends pas. Lisez ici. En soyez, nous parlons de sadaka, n'est-ce pas? En arabe aussi, on parle de sadaka. Le sadaka vient ici du mot sedek. C'est sadak, c'est la même chose parce que en hébreu, les voyelles ne comptent pas. C'est sadak et sedek, c'est la même chose. Or, vous savez avec moi que même si sedek veut dire roi, pas d'amour, pas de charité, mais roi de justice. Donc, le mot charité n'existe pas en hébreu, mais on emprunte le mot justice pour utiliser en lieu et place de charité. Cela veut dire, lorsque j'exerce la charité, cela doit s'exercer dans la justice, tout en respectant la dignité de l'autre et l'honneur de l'autre. Vous avez vu simplement, je ne parle pas d'ailleurs ici à l'église, juste quelqu'un en train de passer, l'autre apprécie comment il est habillé, oh, elle est jolie ta robe. Et puis lorsqu'elle passe, l'autre dit, c'est moi qui lui ai donné cette robe-là. Mais qui a posé la question, c'est qui lui a donné? Le problème, c'est l'appréciation. C'est juste la robe qu'on a appréciée. Personne n'a posé la question qui lui a donné cette robe. Parce que notre amour consiste à prendre et non à donner. Vous ne comprenez pas. Combien de gens dans leur bureau, dans leur chambre, dans leur couloir, murmurent, injurient, boudent avant de vous donner le minerval. Il est dans la maison, on vient poser des problèmes. Il est en train de parler tout le temps, c'est moi qu'on dérange, qu'est-ce qu'on croit, ces gens. Et lorsqu'il vient vous le donner, c'est avec mépris qu'il le fait. La grande crise qui déstabilise le système de ce monde, c'est cette crise d'égoïsme. Cette crise d'amour, je voulais dire. Parce que et n'écoutez pas, si Dieu vous donne une certaine position, un certain rang, une certaine influence, n'écoutez pas tous ces gens qui papotent autour de vous, qui tournent autour de vous, qui vous racontent des histoires, des familles, des amis, celui-là a dit quoi, celui-ci a dit quoi. La plupart d'entre eux ne viennent pas parce qu'ils vous aiment, mais ils viennent parce qu'ils veulent tirer quelque chose de vous. Et ils viennent juste se servir, ce qu'ils veulent donner comme amour n'est pas l'amour véritable. Et ce n'est pas de cela que Jésus a parlé. Jésus n'a pas dit à l'église que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'il savait que cet amour est vaincu par l'égoïsme. Jésus a introduit une loi meilleure. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Remarquez avec moi que le standard, l'unité de mesure change. Ce n'est plus l'amour de soi, c'est plutôt comme je vous ai aimé, comme lui nous a aimé. Ça c'est un concept nouveau. Vous aimez sans rien attendre de retour. Comment nous a-t-il aimé? Parce que cela, comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il nous a aimé? Nous n'étions pas des aimables. Après que nous ayons commis toutes sortes de crimes, nous en faisons encore. Toutes sortes d'abominations. Mais son amour est inaltérable. Dieu ne te critique jamais, Jésus ne te critiquera jamais. Il ne va pas réunir un groupe de gens pour commencer à démontrer tes défauts. Il t'a aimé comme tu es. Il t'accepte comme tu es. Il n'a rien à prendre. Mais il est venu juste donner. C'est donner et se sacrifier. Et c'est cet amour-là qu'il demande à l'église. Il ne dit pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, tu n'arriveras pas. L'égoïsme va vaincre cette loi-là. Mais tu aimeras ton prochain comme je vous ai aimé. Je vous ai montré le type d'amour, le genre d'amour qui est au-dessus de l'égoïsme. C'est que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je l'ai toujours dit et je veux le répéter. Le meilleur couple, ce n'est pas que les épouses sont meilleures ou que les maris sont meilleurs. C'est simplement les hommes et les femmes qui ont compris que l'amour consiste à ne pas chercher son propre intérêt. L'amour consiste à se couvrir. Les familles qui réussissent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème. Toutes les familles ont des problèmes. Toutes les églises ont des problèmes. Toutes les sociétés ont des problèmes. Mais là où les gens réussissent, c'est là où les gens comprennent la loi de l'amour. Je parle de l'amour de Christ. L'amour qui consiste non à prendre. L'amour qui consiste à donner. Alors que quelqu'un n'a rien à offrir. Vous l'aimez parce que c'est lui. Et vous l'aimez avec ses défauts. Vous l'aimez sans condition. Vous l'aimez tel qu'il est. Voilà l'amour que Dieu exige à l'église. Que chacun regarde autour de lui. Combien d'amis il a. Auprès de qui il ne peut rien recevoir. Juste donner. Ça ne nous intéresse pas. Alors c'est cela le commandement du maître. Aime, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça s'adresse aux hommes naturels. C'est une dimension très, très, très basse. Mais la dimension la plus élevée, c'est d'aimer comme Christ a aimé. Frères et sœurs, il a quitté le trône, il a renoncé à son trône. Il est important que chaque mari apprenne à renoncer à son statut de chef de famille afin de pouvoir donner à sa femme et donner à ses enfants. Celui qui arrache comme une proie sa position de chef n'arrive jamais à bâtir un amour où le foyer règne. L'amour de Christ est lorsque une femme mariée, mère de 4 enfants, accepte de quitter ses statuts pour descendre au niveau de cette petite fille ici et lui demander pardon parce qu'elle l'a blessée ou le traité à égal. C'est cet amour-là que Christ nous exige. Tu aimeras comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Il nous a aimés en se sacrifiant pour nous. Il a donné, il s'est donné et il s'est sacrifié pour nous. Ça, c'est la force. Ça, c'est l'amour qui jaillit du cœur du Père. Ça, c'est ce que l'Église devait être. Frères et sœurs, l'arme la plus puissante du diable, c'est la haine. Lorsqu'il y a des problèmes de sorcellerie, des divisions, le but du diable dans les familles, c'est d'attiser la haine. Et vous ne pouvez pas revêtir les armures du diable et opérer efficacement et avoir des résultats. Vous ne pouvez pas haïr les sorciers de votre famille. Vous ne pouvez pas haïr ces gens qui vous combattent dans votre famille ou au travail. Et croire reçu. Si l'ennemi vous prête ses armes et que vous essayez de les utiliser, vous ne pourrez jamais vaincre l'ennemi parce qu'il aura le dessus sur vous. La puissance de Dieu repose dans l'amour. C'est à ma honte que je le dis. Ce n'est pas une gloire pour un pasteur de le dire. Je le dis à ma honte. Vous voyez cette église, l'unité, le peu de choses, l'harmonique et la grâce qui joue ici, c'est à cause de la loi de l'amour. J'ai dans cette église, ça fait des années, des femmes et des hommes, des sorciers. Ils savent que Daddy savent qu'ils sont sorciers. Ils savent plutôt que Daddy sait. Et je sais aussi qu'ils savent que je sais qu'ils sont sorciers. Mais je les aime de tout mon cœur. Je vous dis, je ne vous raconte pas des histoires. Je les aime de tout mon cœur. Et la puissance qui le maîtrise, qui le met hors d'état de nuire, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la lumière, le ténèbre ne peut pas prévaloir. Lorsqu'il y a la méchanceté et la haine, c'est le diable qui part gagnant. Lorsque dans les conflits familiales, tu adoptes l'attitude de la haine, tu es en train de jouer au jeu de l'ennemi. Et tu es en train de rendre plus fort les sorciers et les occultistes de la famille. Parce que le terrain de la haine, c'est leur terrain fertile. C'est là où leurs armes portent fruit. Mais l'amour est une puissance. Elle est plus forte que la haine. Elle est plus forte que la mort. L'amour est capable de dompter tout ce que le diable peut tailler dans votre propre famille. Quelqu'un entend ce que je dis? Cet amour n'est pas humain. Vous ne pouvez pas l'inventer. Cet amour coule du cœur du Père. Et regardez comment Jésus nous a aimés. Sans nous juger, il nous a aimés simplement. Combien d'entre nous sont aimés parce que simplement ce qu'ils sont? Et nous avons cette mauvaise tendance à ne voir dans les gens que les défauts. Nous ne savons jamais apprécier les qualités que les gens ont. Nous ne savons jamais aimer les gens. Qui est parfait du milieu de nous? Personne, je l'ai déjà dit ici. La loi condamnera celui qui est le plus saint d'entre nous, tandis que la grâce justifiera celui qui est pire que nous. Je ne comprends pas à l'église. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment un fer peut tomber dans le péché? Les gens, quels sentiments nous aurions normalement lorsqu'un fer tombe dans le péché? C'est la compassion. Les gens devraient pleurer. Mais à l'église, lorsque quelqu'un tombe dans le péché, les gens s'énervent, les gens se fâchent. Sur tout le monde réclame qu'il soit sanctionné. Parce qu'en réalité, nous voulons l'écraser, nous voulons l'enterrer, nous voulons le détruire au nom de la justice. Mais en réalité, c'est notre haine qui travaille et qui prétend agir au nom de la justice. L'amour supporte tout. Quelqu'un peut dire avec moi, l'amour supporte tout. Vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens ici qui sont malades ici. Je peux vous assurer, frères et sœurs, ce ne sont pas des maladies véritables. Il n'y a rien. C'est juste des carences d'amour. Il y a des gens qui ont grandi dans des cadres, il n'y avait pas d'amour. Ils ont grandi dans des cadres, il n'y avait pas d'affection. Et puis finalement, pas seulement dans la famille, dans la société, ils sont venus à l'église et c'est la même chose, ils trouvaient la haine. Et leur cœur est simplement rongé par la haine. Vous pouvez les qualifier comme vous voulez, de tout ce que vous voulez dire. Mais ce qui fait là, c'est la carence de l'amour. Et l'église, mon Dieu, devait être ces oasis d'amour. Les lier ou les rejeter, ou les abandonner. Les gens qui ont été exclus de la société, lorsqu'ils viennent, peuvent trouver une famille. Ils peuvent trouver des gens sur qui peuvent se confier, se reposer. Mais l'amour à l'église fait défaut. On est devenu au contraire un lien où les haines se transmettent d'une façon contagieuse. Parce que je ne supporte pas ma soeur, je commence à raconter toutes sortes de choses autour d'elle. Frères et sœurs, écoutez-moi, je vais continuer le mardi, le vendredi je serai là, dimanche prochain je vous encourage à ne pas rater les kits de la semaine. Je vais enseigner quelque chose le mardi. Pour ceux qui vont le comprendre, ils vont évoluer dans une nouvelle dimension de vie. Parce que l'amour est une force qui arrive à conquérir. C'est une force qui arrive à dominer. L'amour, frères et sœurs, c'est autre chose. Le diable s'efforcera à nous priver d'aimer parce qu'il sait que si nous n'aimons pas, nous sommes dans les ténèbres. Nous avons fait l'exercice la semaine passée. Le dimanche, je l'ai fait seul. Si je vous demande à tous de vous tenir debout, de fermer les yeux, de venir vers moi, personne ne va arriver sinon avec beaucoup de difficultés et de culbutes en route. Pourquoi? Parce que là où règnent les ténèbres, les gens ne peuvent pas marcher correctement. Jésus a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres en dehors? Comment est-ce que la lumière peut devenir ténèbre lorsque nous haïssons le frère? L'amour dont je parle, c'est cet amour qui ne cherche point son propre intérêt. L'amour qui ne cherche point son intérêt, son propre intérêt. L'amour dont je parle, c'est l'amour dont nous parle 1 Pierre 4, verset 8. Si des lecteurs sont prêts, lisez-moi 1 Pierre 4, verset 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Et suivez ce qui est écrit. Si toute la vie ne doit tourner qu'autour de nous, oh mon Dieu, nous n'arriverons jamais à la dimension de Dieu. Et nous ne marcherons jamais avec Dieu.
1 Pierre chapitre 4, verset 8.
1 Pierre 4, verset 8, oui.
Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés.
Avant tout, frères et sœurs, dit la Bible, ayez un amour ardent les uns pour les autres, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire lorsqu'on aime, on couvre l'autre. On couvre ses faiblesses. On couvre ses déficits. On couvre ses manquements. Un autre verset que nous avons mal compris et que nous avons mal enseigné. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux qu'on coupe sa main, qu'on le jette dans la gêne. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas défini ce que c'est le scandale. Nous avons enseigné ces versets, malheur à celui par qui le scandale arrive. Mais c'est quoi le scandale? Le scandale n'est pas le péché. Non. Le scandale, c'est lorsque le péché est exposé. Je vais m'expliquer, frères et sœurs. Excusez-moi de prendre cet exemple vilain, mais ça ne sent pas propre. Bon, mais je trouve que c'est la seule façon de bien expliquer. Lorsqu'une femme mariée trouve son mari sur sa borne, sur l'air borne, ce que le mari a fait est un péché, c'est une abomination. Mais ce n'est pas un scandale. La manière dont la femme traite de ce dossier-là, c'est ce qui déterminera si cet acte deviendra scandale ou pas. Si elle essaie de couvrir son mari par amour et de traiter ça avec diligence et sagesse, le scandale n'éclatera pas parce que l'amour a fait quoi? L'amour a couvert une multitude de péchés. Mais lorsqu'il n'y a pas amour, lorsque la femme prend ce péché-là, il l'expose, c'est alors que le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Le scandale est arrivé non par celui qui a commis le péché, mais par celui qui a exposé le péché. C'est ce que ça veut dire. L'amour couvre une multitude de péchés. Les péchés sont là, mais les gens ne peuvent pas voir parce que l'amour couvre le péché. Ça, c'est la loi de l'amour. Romains 7, Romains 8 parle de la loi de la mort et du péché. Ça, c'est la loi du Mont Sinaï. Et Romains 8 parle de la loi de vie. La loi de vie, la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de l'amour. Cela veut dire, avec cet exemple vilain, je ne l'aime pas moi-même, mais c'est une façon d'expliquer pour que les gens comprennent. Les enfants ne seront pas au courant de ce que papa a fait. Ça les préserve. Les membres de famille ne seront pas au courant. Les voisins ne seront pas au courant de ce que papa a fait. Plusieurs personnes sont protégées parce que simplement le péché a fait quoi? A été couvert. Mais si la femme est insensée, elle expose cela. Elle-même est dans la confusion, la honte. Ses enfants portent l'opprobre pour plusieurs générations. Et son mari et son foyer est détruit. Parce que le péché n'a pas été... Je ne suis pas en train d'encourager le péché. Je ne suis pas en train d'encourager le péché. Beaucoup de gens font du bruit pour rien. S'il y avait une compétition, une course de sanctification, je dépasserais la plupart d'entre vous. Dieu seul sait. Je n'encourage pas les péchés. Mais je suis en train d'expliquer. Cela veut dire quoi? J'ai ici dans cette église des frères qui m'ont escroqué de l'argent. Mon épouse n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Un frère de l'église m'a escroqué l'argent. Je l'appelle frère. Est-ce que tu sais que je sais que tu es escroc? On a dit cet argent. J'ai dit non, on ne discute pas. Je ne demande plus l'argent. Je veux que tu avoues que ce que tu as fait, c'est de l'escroquerie. Oh, Daddy, disons-le. Comme tu insistes, ok, disons que c'est de l'escroquerie. Ok, je dis, je ne dirai à personne, l'affaire s'arrêtera là. Mais toutes les fois que je te verrai autour de frères et de sœurs, je vérifierai si c'est une question d'argent. Si c'est une question d'argent que tu veux traiter, je serai obligé de leur prévenir. Est-ce qu'on s'entend? Oui, Daddy. Ça, c'est l'amour. L'amour consiste à couvrir le péché. Mais je ne comprends pas. L'église, qu'est-ce qui se passe? Chez nous ici, une mouche seulement tombe sur toi. Tout le monde doit être alerté. On ne t'a même pas injurié. On ne t'a même pas juste un regard. Tout le monde doit être alerté. Pourquoi ne sommes-nous pas à mesure de supporter les faiblesses les uns des autres? Pierre dit ceci. Ne savez-vous pas que c'est un sujet de joie que de supporter de l'injustice par motif de conscience? Lorsqu'on est traité injustement et qu'on le supporte, ça c'est un sujet de gloire. Et la Bible dit c'est à cela que nous avons été destinés. Regardez le modèle de Jésus. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a été malmené. Il a été dénigré. La Bible dit comme une brebis muette devant ce qu'il attend. Regardez l'amour. Ici on n'a même pas encore touché. Mais tout le monde est alerté, tout le monde est au courant. Cette habitude qui consiste à se plaindre de tout et de rien. Pourquoi vous ne pouvez pas subir certaines injustices et apprendre à pardonner et à laisser passer? Parce que toutes les fois que vous parlez du mal d'un frère, vous êtes en train de scandaliser d'autres personnes. Vous êtes en train d'exposer la faiblesse. Et vous êtes en train pas d'aider les gens. Si quelqu'un t'a critiqué, ça coûte quoi que de mourir? Christ est mort pour nous. Il avait raison. Mais il n'a pas regardé son rang, son égalité avec Dieu comme une poix arrachée. Ngana ninga basa karana ngaite yo nani yo nzambe vice nzambe to nani. Parce que Dieu lui-même n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une poix arrachée. Mais il s'est humilié lui-même. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour supporte tout. De nos jours, ces choses n'existent plus. Nous sommes le premier à maltraiter les autres. Et nous sommes le premier à dénigrer les autres. À nous plaindre à tout bout des champs. L'amour dont je parle ici, ce n'est pas les gens qui racontent dans cette église, il n'y a pas d'amour. Regardez, on n'aide pas les gens. Parce que son amour à lui consiste à l'aider lui. Ça, c'est une autre forme de sorcellerie africaine. Où juste deux personnes doivent aller travailler, les autres restent assis pour qu'on vienne les aider. Ça, c'est la sorcellerie. C'est pas l'amour. L'amour ne réclame pas. L'amour ne consiste pas à recevoir. L'amour consiste à donner. Qu'est-ce que moi j'ai à donner? Qu'est-ce que moi j'ai à apporter pour que ma communauté, pour que ma nation, pour que ma famille avance? Ça, c'est l'amour de Christ. Oh mon Dieu, nous devons revenir cet après-midi. Mais je verrai qui reviendra. Savez-vous pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, il est en train de persécuter l'église, il a reçu les lettres, et il allait à Damas pour aller faire arrêter des chrétiens. Il arrive en route, une révélation puissante, divine, une visitation divine, il tombe sur ses genoux, et il commence à pleurer, et là, le Seigneur lui pose la question, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dites avec moi, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je n'entends pas, dites-le bien encore, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul pose la question, qui es-tu Seigneur? Jésus lui dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Quand on a lapidé le Seigneur, Paul n'était pas là. Quand on a arrêté le Seigneur, Saul n'était pas là. Quand on l'a crucifié, Saul n'était pas là. Son histoire ne ressort qu'à partir de la mort d'Étienne. Mais Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Saul persécutait l'église. Mais Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est ce que l'église n'a jamais compris. Le corps de Christ, ce n'est pas seulement la tête. Jésus est la tête. Toutes les autres parties du corps font partie du corps de Christ. Toutes les fois que tu parles mal contre ton frère, à tort ou à raison, tu parles mal contre le corps, tu parles mal contre Jésus-Christ. Toutes les fois que tu critiques ta sœur, tu critiques le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois que tu fais plaire un frère, c'est Jésus que tu fais plaire. Et ça devient trop dangereux. Lorsqu'après avoir fait tout cela, nous venons maintenant communier à la table du Seigneur. Vous savez la Sainte Cène, c'est quoi? C'est un repas d'amour. C'est un repas, disons un souper, qui ne se prenait que la nuit. Parce qu'il y a un mystère autour. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, on va lire ça, c'est important. Parce que j'ai suivi le communiqué, tous ceux qui sont baptisés, qui viennent à la Sainte Cène de ce soir. Il n'est pas question d'être baptisé. Oui, ça c'est la condition fondamentale. Mais le problème, ce n'est pas d'être baptisé. Le problème, c'est de discerner le corps du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23.
1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23.
Suivant.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
Oui.
C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps.
Ceci est mon corps.
Qui est rompu pour vous.
Qui est rompu pour vous.
faites ceci en mémoire
faites
de moi.
Faites ceci en mémoire de moi. Continue, ma soeur, continue, je vais t'arrêter.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur.
Soulignez la mort du Seigneur.
Qu'il vienne.
Soulignez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais vous expliquer des choses importantes. On y va, ma sœur.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement,
indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Écoutez-moi, celui qui mangera et qui boira indignement, sans dignité, sans honneur. Continue à partir de indignement.
Indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Continuez la suite.
Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
Avant de le faire, éprouvez-vous vous-même. Faites-vous passer par l'épreuve. On y va.
Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement
contre
lui-même.
C'est là le problème. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Termine et puis je vais commenter. On va arrêter.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes
voilà les
et de malades.
Il y a beaucoup d'infirmes et de malades.
Et qu'un grand nombre.
Et qu'un grand nombre, pas un petit nombre, un grand nombre. On fait quoi?
Sont morts.
Sont morts.
Si nous nous jugions nous-mêmes.
Si nous nous jugeons nous-mêmes.
Nous ne serions pas
jugés. Nous ne serions pas jugés ni par Dieu, merci beaucoup, ni par les diables. Le problème de l'Église n'est pas Dieu ni les diables. Dieu ne punit personne, Dieu ne châtie personne. Du moment où toute sa colère s'est abattue sur le Fils à la croix et sa colère s'est arrêtée là. Tout ce qu'on dit du reste de Dieu, Dieu n'est pas dans l'affaire. Lorsque vous êtes en Christ, Dieu ne vous châtie pas toute sa colère. C'est fini là, à la croix sur Jésus-Christ. Toutes les âmes qu'il pouvait déployer pour châtier, Christ les a tous consommées. Dieu n'a plus d'armes contre ceux qui sont en Christ. Nous ne pouvons pas non plus juger, être jugés par les diables. La place du diable est sous nos pieds et il le sait. Des fois, c'est nous qui oublions. C'est nous qui ne connaissons pas ces gens. Le diable sait que sa place est sous nos pieds. Notre vrai problème, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les diables. Notre vrai problème, c'est le jugement contre nous-mêmes. Et ce jugement, c'est quoi? C'est que la Sainte Seine est un repas d'amour. La Sainte Seine est une alliance de sang où les gens entrent en alliance avec l'engagement de ne jamais se trahir. Et vous voyez, la Bible dit, nous mangeons sans discerner le corps. Et l'Église croit que le corps, c'est le pain que nous partageons là. Le corps de Jésus est avant toute chose composé de ses membres. Cela veut dire, lorsque je vais prendre la Sainte-Seine, sans comprendre que mon frère est une partie du pain que je mange. Écoutez, je vais le dire en clair. La Sainte-Seine veut dire quoi? La Sainte-Seine veut dire, nous sommes autour d'un deuil, il y a quelqu'un qui est mort. Et maintenant, on veut savoir qui est l'auteur de ce meurtre. Dans nos traditions africaines, dans la tradition bantou, on sort un liquide ou un morceau de manioc, on dit, tout le monde dans la famille va manger, boire. Et celui qui a tué la personne, le mauvais sort le suivra, parce qu'il a mangé. C'est ça la Sainte-Seine. Lorsque nous nous rassemblons dans la table, Christ est mort. Il est mort une fois pour toutes. Mais qui pour la deuxième fois tue encore l'Église? Qui maltraite encore les frères qui font partie du corps de Christ? Je suis en conflit avec mon épouse. Je ne me parle pas avec mon épouse. Je n'ai pas le droit de venir à la table du Seigneur partager le pain. Parce que chaque morceau de pain offert, écoutez ceci, une fois pour toujours, chaque morceau de pain que nous prenons est une partie du corps. Le morceau que tu prendras ce soir, c'est l'ancien matou. Le morceau que papa Mouarabou mangera, c'est le frère Magloire. Le morceau que Adolphe mangera, c'est maman Merlin. Le morceau que Johanna mangera, c'est papa Magloire ici. Ou sœur Olga. Le repas du Seigneur est un mystère. C'est pourquoi Jésus l'a fait la nuit, ça c'est le 1, le dernier jour avant sa mort, le dernier moment avant sa mort, et en plus, il ne l'a fait qu'avec les 12. Il ne l'a pas fait en public. Il ne l'a pas fait avec les 120 qui sont restés dans la chambre haute. Sa mère était une bien-aimée d'elle. De lui plutôt, il y avait des gens autour. Mais il a pris juste les 12. C'est pourquoi, normalement, la Sainte Cène est réservée pour les membres d'une même église locale. Quelqu'un ne peut pas quitter à ces cas où la résurrection ou sang précieux est venu prendre la Sainte Cène ici. C'est pour les membres d'une famille locale. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un voyage, nous faisons une recommandation et nous disons ceci. Veillez l'accepter à la table du Seigneur. Cela veut dire nous avons un témoignage de lui, qu'il est notre frère. Maintenant qu'il est en déplacement, maintenant qu'il est en mutation, maintenant qu'il est là-bas loin, nous le recommandons dans une église pour qu'on l'intègre dans la partie du prince. Paul dit dans Corinthiens, ne savez-vous pas que nous qui sommes prisonniers formons un seul pain, un seul corps. Et imaginez que je mange une partie de l'ancien manteau, je bois son sang. Entre-temps, dans mon cœur, j'ai de la haine contre lui. Je médite le mal contre lui. Je suis en train de boire à ce moment-là un jugement contre moi-même. Vous ne pouvez pas avoir des ennemis dans votre famille, ni au service, des gens à qui vous ne parlez pas, des gens que vous haïssez. Lorsque vous les voyez, votre tension monte ou baisse à cause, peu importe ce qu'ils vous ont fait, mais à cause de ces choses-là, vous avez gardé des rancœurs. Et maintenant, lorsque c'est la table du Seigneur, vous vous avancez pour manger, c'est le jugement. Je suis d'accord avec mon ami le prophète Néhémie qui disait le vendredi que plusieurs myomes, plusieurs fibromes sont des démons, sont des choses que le diable a mis. Je suis pleinement d'accord avec lui. Mais certains aussi n'ont rien à voir avec des démons. Ce sont des morceaux de pain, des corps de Christ que les gens ont mangé indignement. C'est le sang de Christ qu'ils ont bu indignement, qui se sont constitués en stérilité, en maladie, en blocage, en malédiction dans leur propre vie. Parce qu'ils ont mangé un jugement. Celui qui outrage un frère, celui qui méprise un frère, celui qui malmène un frère, celui qui se plaint d'un frère, ne peut pas venir à la table manger ce même frère qui l'a maudit. Et vous pouvez voir avec moi. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y aurait normalement au milieu de nous pas de malades en aussi grand nombre qu'il y a. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Nous devions normalement être en santé divine. Les maladies devaient être juste de nouveaux venus qui arrivent, qui rejoignent la famille. Nous ne devons pas porter de maladies chroniques. Frères et sœurs, vous voyez la Sainte-Cène. C'est la bénédiction ou la malédiction. C'est la vie ou la mort. Ça ne vous laisse pas idem. Je ne peux pas comprendre que vous avez un cancer, vous avez une maladie de sang, vous venez jour après jour prendre la Sainte-Cène et cette maladie persiste encore et refuse. Frères et sœurs, nous ferons quoi alors? Parce que la Sainte-Cène est la dernière arme de Dieu. Regardez en Égypte, après que Dieu a sorti toutes les armes, vous connaissez tous les jugements. Quelle est la dernière arme que Dieu a sortie? C'est la Sainte-Cène. Et lorsque l'agneau est immolé, les enfants d'Israël célèbrent la Pâque. Ils mangent l'agneau. Le sang est mis dans les linteaux. C'était la dernière cartouche. Les Égyptiens ont perdu leur premier-né. Et les enfants d'Israël sortaient dans la liberté. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il a prié à Gethsemane. Il a gêné. Il a chassé les démons. Il a tout fait. Mais quelle est la dernière arme qu'il a sortie lorsque les choses sont devenues très compliquées? C'est la Sainte-Cène qu'il a fait. J'ai un frère ici. Je ne sais pas si les vidéos premier ou deuxième culte. On l'a empoisonné. Ce n'est pas moi qui le confirme, je ne suis pas médecin. C'est un médecin qui le confirme. Ici en ville, un médecin juif en plus, qui l'a confirmé, lui a donné des résultats. Il était empoisonné et le poison était en train de détruire ses organes vitaux. Il n'avait que quelques jours pour vivre. Le médecin lui a dit s'il avait assez de moyens, on devait l'évacuer. Ses frères sont venus me voir en pleurant parce qu'il était en train de mourir. Je lui ai fait une Sainte-Cène ici même. Je lui ai fait une Sainte-Cène. Je bénis le pain. Je bénis le vin. Je dis ça, c'est la vie qui a été donnée à la croix du calvaire. C'est la vie qui a été donnée. Et cette vie qui a vaincu la mort, oh mon Dieu, tu le prends et tout toutes les traces de ces poisons disparaîtra. Il a pris en train de trembler. Nous avons juste loué Dieu. Il est retourné le lendemain, le médecin dit que le danger est écarté. Oh mon Dieu, tous les effets nocifs qui attaquaient les organes vitaux se sont arrêtés. Tu n'as plus besoin d'être évacué. Il sera juste question de quelques... C'est la puissance, c'est la vie de Dieu. C'est le corps de Christ qui est exposé là. Et c'est un mystère grand. Mais si vous le prenez indignement, indignement veut dire quoi? Vous n'avez pas traité avec dignité. Vous n'avez pas honoré le membre qui constitue ce corps. À ce moment-là, c'est un jugement contre vous-même que vous prenez. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont morts à cause de ces choses. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Un grand nombre d'ailleurs sont morts. Il y a des gens dans nos villages, dans nos tribus qui sont morts à cause de la honte. On donne ces boissons-là, quelqu'un est mort, tout le monde va boire. Si je ne bois pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais il sait que c'est lui le sorcier. Et il boit. Vous savez, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous haïssez quelqu'un, il vous donne quelque chose. Dans les traditions bantoues, on dit vous mangez, ça va vous bloquer là. Et finalement, il meurt. Nous avons besoin de mettre de l'ordre. Je ne veux pas que tu viennes ce soir boire les jugements. Si tu as des choses à ranger dans la maison, tu ne peux pas être en train de vivre en séparation de corps avec ton mari parce que tu le punis et tu viens manger la Sainte-Cène ici. Parce que la Sainte-Cène, c'est un repas d'amour entre Christ et son Église. Et la Bible dit que le mari puisse aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et que les femmes puissent se soumettre à leur mari comme l'Église se soumet. Si tu n'es pas soumise à ton mari, la Sainte-Cène devient un jugement pour toi. Frères et sœurs, je vous dis, 80% des blocages, des malédictions, des maladies, ne viennent pas du diable, mais viennent de ces choses. Ce n'est pas Dieu qui nous punit, mais c'est nous-mêmes, en trahissant l'alliance, une alliance de sang. Nous devons savoir valoriser le corps de Christ. Traiter avec dignité le frère et sœur, avec amour, nous supportant les uns les autres. Vous ne trouverez pas où les gens sont parfaits. Vous allez chercher une famille où tout est parfait. Vous ne trouverez pas. Une église, vous ne trouverez pas. Mais l'amour nous permet de tout supporter. Et l'amour nous permet de nous élever au rang de Dieu. Frères et sœurs, la vie, la plupart d'entre nous, les vies n'avancent pas à cause de cette carence d'amour. Et je voulais conclure en disant à quelqu'un, Dieu nous a aimés comme jamais personne ne nous a aimés. Nous n'étions pas aimables, il nous a aimés. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes sauvés. L'amour, c'est la puissance. Je vais vous enseigner ces choses. Vous voyez, je parle de l'ordre de Melchisédek. Abraham s'est séparé avec Lot sur base de dissension. Il y a eu des conflits entre les travaux, il y a eu des problèmes. Ils ne se sont pas, pasteur Jean-Paul, séparés en paix. Il y a eu des dissensions. Abraham a joué à la sagesse. Choisis si tu vas à gauche, j'irai à droite, ainsi de suite. Mais lorsqu'Abraham est parti, il apprend que son neveu a été emporté captif par les rois qui ont envahi Sodome et Gomorrhe. C'était une bonne occasion pour Abraham de dire, si c'était moi, j'allais dire à mon cousin, ah, il jouait avec moi, maintenant il a vu. Il aura besoin de moi, il comprendra qu'est-ce que je représente. Abraham n'a pas dit cela. Parce que l'amour pardonne tout. Abraham est allé à délivrer son frère. Il a pris sa vie. Il a mis en péril. Il a exposé sa vie pour aller délivrer son neveu avec qui ils avaient des problèmes hier. Mais toi, avec ta tante, avec ton oncle, des problèmes datent des années. Tu n'as pas cette capacité-là de faire le premier pas. Même si c'est toi qui as été offensé. La Bible dit qu'on demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup confié. Probablement que celui-là n'est pas né de nouveau. Même s'il est né de nouveau, probablement qu'il n'a pas suivi cet enseignement que tu as suivi. C'est toi à qui on a beaucoup confié. C'est à toi qu'on demande de faire le premier pas. Et maintenant, Abraham a démontré cet amour. Il est allé sacrifier sa vie pour son neveu. C'est alors que Melchisédek est sorti avec le pain et le vin pour dire à Abraham, quelqu'un d'autre aussi s'est sacrifié pour toi. Regarde les évidences, le pain et le vin. Le message de l'ordre, c'est un message d'amour. L'amour, c'est la puissance. Laissez-moi prêcher ces choses jusqu'à ce que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Que l'amour de Dieu déborde dans ton cœur et que tu commences à le partager autour de toi. Que l'onction vienne à l'église. Lorsqu'on est en train de chanter, que des malades commencent à être guéris. Que des aveugles voient. Que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent. Que des choses impossibles deviennent possibles par la puissance de l'amour. L'amour est plus fort que l'onction. L'amour est plus fort que la force. L'amour est plus fort que la puissance. L'amour, c'est le lien de la perfection. Je prie ce matin. Je verrai qui va devenir le soir. Mais je prie quand même ce matin. Que l'amour de Dieu puisse vous guérir de toutes les insuffisances, de tous les déficits, de toutes les blessures et de toutes les maladies psychosomatiques et même de maladies réelles. Que l'amour de Dieu puisse vaincre les malédictions. Frères et sœurs, les gens peuvent raconter ce qu'ils racontent, voir les défauts qui sont en vous, mais l'amour que Dieu vous a donné est un amour éternel. Cet amour ne changera pas. Il n'y a rien qui arrivera qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni les faiblesses, ni les tribulations, ni les angoisses. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour a consisté à donner son Fils. Recevez cet amour. Ouvrez votre cœur. Que l'amour de Dieu jaillisse. Lorsque vous parlez, que l'amour coule. Ça vous conduit dans une dimension. Vous devenez maître de vos ennemis. Oh mon Dieu. Je dis que vous devenez maître de vos ennemis. Parce que l'amour c'est Dieu. Celui qui marche dans la lumière est en communion avec Dieu. Oh, marcher dans la lumière, c'est aimer son frère. Quelqu'un m'a écouté. Quelqu'un a été béni. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur. Mais c'est ce qui soigne. C'est ce qui vous distingue des autres. C'est ce qui manifeste la nature de Dieu en vous. C'est ce qui vous rend indomptable. C'est ce qui vous rend invincible. C'est cet amour que vous recevez de Dieu et que vous commencez à propager autour de vous. Quelqu'un me donne trois amen. J'ai terminé mon service. Gloire à Dieu, j'ai terminé mon service. Je vous revois le mardi et je continue avec le message de l'ordre extrêmement important.
C'était là le message du révérend Espérance Mbakadi, pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa en République démocratique du Congo.